Un peu de musique rageuse avec l'Abandoned Totten et le titre Statique.
C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les sous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Ce lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midi, les parents sont rentrés.
Alors, et voilà, Zep, donc vous allez l'entendre tout à l'heure, vous êtes donc sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2, et c'est le Canu Info du lundi, un peu en retard, mais on est quand même là, équipe restreinte, mais on va quand même essayer de dire un certain nombre de choses.
Alors, aujourd'hui à l'international, on va vous parler de la bataille de Mossoul, des élections municipales en Italie, de la surveillance des militants et journalistes au Mexique. Et puis une petite surprise, au niveau national, on aura un sujet sur l'injonction Vive la France, un sujet sur le gouvernement en difficulté, le contrat de projet Macron, la polémique sur les bouches d'incendie et le sujet sur Rémi Fraisse. Au niveau local, l'actualité du Front social, la victoire des grévistes à la clinique du Val d'Ouest, la marche contre le projet d'A45 et le parvis de l'Opéra délogé. On aura ensuite un petit reportage sur le marché du Ramadan, place Badourian, et on finira par l'agenda.
Allez, on lance à l'international. C'est Mossoul, c'est la bataille de Mossoul, c'est donc moi très bien. Donc en ce moment à Mossoul, eh bien c'est terrible. Les forces irakiennes, donc dans les forces irakiennes, il y a l'armée régulière et les milices, j'y reviendrai. Menaient hier aujourd'hui des combats absolument terribles dans donc la vieille ville de Mossoul, quasiment entièrement récupérée, même si quelques centaines de combattants de Daesh, qui n'ont évidemment absolument rien à perdre à part mourir, et c'est inéluctable pour eux, ils le savent, mais avant ils veulent faire des carnages, donc ce livre a de très solides et morbides résistances, ces soldats de Daesh. Mais là, Mossoul, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous regardez des photos, ça ne ressemble plus à rien, c'est un désastre. Les civils fuient par milliers, quand ils le peuvent, puisque beaucoup sont malheureusement pris au piège entre les forces irakiennes et entre les combattants de Daesh. Certains sont même utilisés comme boucliers humains par Daesh. Ils n'ont plus d'eau, plus d'électricité, plus de bouffe, et évidemment les efforts des assauts humanitaires sont beaucoup trop faibles pour que ces civils subviennent à leurs besoins. Alors, et ce calvaire, il est très loin d'être terminé, puisque une fois récupéré, pour rappel ou information, Mossoul, c'est au nord de l'Irak. Mossoul, c'est une zone sunnite. Or, les forces irakiennes sont accompagnées de 100 000 à 150 000 combattants surtout, combattants chiites, qui participent très très largement aux interrogatoires des réfugiés, des civils de Mossoul, sur lesquels l'armée peut avoir des doutes, puisqu'il est aussi possible que certains de Daesh, se sentant vraiment à deux doigts de mourir, et bien se planque parmi les civils, mais sauf que ces milices chiites, eh bien, elles interrogent les sunnites en considérant que, de fait, ils ont soutenu Daesh, hein. Et ils ont une définition bien plus large de ce qu'est un collaborateur de Daesh que l'armée régulière. Et ces milices chiites, eh bien, elles font des exactions, elles en ont fait déjà énormément dans le nord de l'Irak. Alors, pour rappel, l'Irak aujourd'hui, c'est dirigé par des chiites, mis en place suite à l'intervention américaine de 2003. À l'époque, c'était Saddam Hussein, donc, qui a d'ailleurs été mis en place en partie par les États-Unis et laissé en place et laissé massacrer de nombreuses insurrections chiites et kurdes depuis l'intervention américaine de 91, et l'intervention militaire américaine de 2003, eh bien, a destitué certes Saddam Hussein, mais a mis au pouvoir des chiites et a créé Daesh en Irak, puisque, pour rappel, Daesh en Irak, les principaux cadres dirigeants de l'armée de Daesh, eh bien, ce sont des anciens cadres dirigeants de Saddam Hussein. Et qui plus est, certes Mossoul est une ville stratégique pour Daesh, et donc pour le pouvoir irakien, et les chiites, et les milices chiites, et l'armée chiite. Mais Daesh ne va pas être éradiqué comme ça, hein, bien sûr. Daesh existe en Libye, existe en Égypte, existe en Syrie, se développe aussi en Asie du Sud-Est, hein, et donc Daesh prolifère. Et donc il est évident que plus des États comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., interviendront là-bas, c'est-à-dire pour des raisons donc impérialistes, hein, puisque on sait très bien que derrière tout ça, il y a quand même le pétrole, eh bien, plus il y aura des interventions militaires impérialistes, et plus Daesh se développera, plus la haine anti-Occident, en quelque sorte, se développera, et plus il y aura d'attentats chez nous, et puis plus il y aura de lois antiterroristes, et puis plus il y aura d'interventions, etc., etc. Donc les responsables des atrocités que subissent les civils aujourd'hui à Mossoul, eh bien nommons-les, en dehors des forces irakiennes, en dehors de Daesh, c'est aussi l'impérialisme occidental.
Alors, sans transition, beaucoup plus proche de nous, en Italie, on a voté aussi les 11 et 25 juin dernier pour les élections municipales partielles, puisque en Italie, on vote pas, tout le pays ne vote pas en même temps pour désigner les maires et conseils municipaux. Les 11 et 25 juin dernier, les élections concernaient plus de 1000 communes sur un total de 8000, hein, c'est des grosses communes bien plus grandes que celles qu'on connaît en France, dont les villes de Gênes, Palerme, Vérone, Parme et Padoue. On retient de ces résultats l'élément le plus significatif de ces élections qui a été l'abstention, qui a dépassé 40%. Pour ceux qui ont voté, on note la montée des coalitions de centre à extrême droite, arrivées en tête dans la majorité des villes. On peut remarquer la défaite de la maire de l'île de Lampedusa, à une des premières destinations des migrants méditerranéens, bien sûr. Les électeurs ayant justement rejeté sa politique d'accueil des migrants qu'elle tentait de mener dans la dignité. Le mouvement des 5 étoiles de Beppe Grillo a lui marqué un vrai coup d'arrêt, éliminé notamment dans son fief d'origine, à Gênes, alors qu'il avait remporté l'an dernier les mairies de Rome et de Turin, donc assez symbolique. On dit que le mouvement des 5 étoiles resterait toutefois en tête des intentions de vote national pour les élections législatives qui doivent se tenir d'ici à mai 2018. Il profiterait des divisions des autres partis, notamment de celui de Matteo Renzi, actuellement au pouvoir, et du mécontentement généralisé envers la classe politique italienne. Toute ressemblance avec une réalité que vous connaissez bien est absolument fortuite.
Et maintenant, on va du côté du Mexique. Donc, la semaine dernière, le New York Times a révélé l'existence d'un espionnage massif de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme et de militants de tout poil, trop dérangeants donc, pour le pouvoir. Donc, une fois de plus, hein, Peña Nieto est à la pointe de la lutte contre ceux qui dérangent le pouvoir. On en a discuté plusieurs fois ici, en plus de l'implantation extrêmement inquiétante du crime organisé sur tout le territoire mexicain. Le niveau de corruption des autorités est probablement l'un des plus élevés du monde. Et gare à ceux qui s'organisent contre ces capitalistes de tout poil. Donc l'État s'est en fait procuré un logiciel de surveillance nommé Pegasus, qui est développé par une société israélienne, société qui vend ce logiciel uniquement à des gouvernements. Difficile donc pour Peña Nieto de nier l'implication de l'État dans cette surveillance. Pourtant, c'est bien ce qu'il a essayé de faire dans un premier temps, avant de faire une pirouette en expliquant que c'était une utilisation inappropriée du logiciel en question. Il a donc assuré chercher activement les auteurs de cette utilisation inappropriée. Alors, parmi les principales victimes de cette surveillance, on note quand même notamment une journaliste qui est pas très aimée de Peña Nieto lui-même, puisqu'elle a révélé le train de vie de la famille de Peña Nieto, notamment l'acquisition d'une villa hyper luxueuse. Donc elle fait partie des des principales cibles de cette surveillance, mais c'est probablement une utilisation inappropriée. On retrouve aussi beaucoup de militants qui sont soulevés contre les 43 étudiants disparus en 2014 et qui ont été très probablement assassinés par la police. Clairement, c'est une répression, enfin une surveillance extrêmement ciblée qui vise à pouvoir réprimer tous ces militants. On se souvient de Javier Valdez qui a été tué en mai cette année dans l'État de Sinaloa. Il était journaliste et l'État de Sinaloa, c'est un des États où le crime organisé détient le plus de pouvoir et vraiment implanté.
Dans et le plus violent.
Exactement. Et puis surtout, c'est le crime organisé, il est vraiment implanté dans tous les rouages de l'État, à tous les niveaux, de la police municipale au palais ministériaux. Et c'est extrêmement difficile de s'opposer au crime organisé, parce qu'en réalité, on s'oppose directement à l'État. Du coup, voilà, en mai, il y a Javier Valdez qui avait été tué. Depuis le début de l'année, il y a 5 journalistes qui travaillent sur les questions de corruption et de trafic qui ont également été tués par balle. Au début de l'année, ce sont des opposants politiques et des militants qui luttent notamment contre les lobbies du soda qui étaient visés par cette surveillance massive. Autant dire que c'est de plus en plus compliqué et que les moyens que déploie Peña Nieto pour éviter toute opposition sont de plus en plus intrusifs. Et voilà, on souhaite courage à tous les camarades mexicains, notamment ceux qu'on avait invités il y a 2 semaines ici. Et on espère qu'il y aura une réaction un peu massive dans la rue et une solidarité internationale pour dénoncer les agissements du gouvernement Peña Nieto.
zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé par voie ministérielle. Les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rassons qui n'ont jamais enlevé leur costume de prolon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers omniprésent. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fouet. Si propage, alimente la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, ils présentent leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Voilà, donc vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info, du lundi soir, 102.2, la plus rebelle des radios. Et on vient de vous passer donc Zone d'expression populaire, hein, et de son doux titre Nique la France. Et vous allez comprendre pourquoi on vous a passé cette chanson.
Et oui, c'était en 2012. La Griffe, un groupe catho tradi xénophobe et maurassien, porte plainte contre un groupe musical lillois, ZEP, Zone d'Expression Populaire, pour une chanson rappée sur fond de musette sobrement intitulée « Nique la France ». Une pétition se monte pour défendre les artistes, signée par des noms aussi divers que Besancenot, Noël Mamère, Coquerel et une certaine Danielle Obono, alors inconnue au bataillon. Et il se trouve que cette militante anticapitaliste passée par la LCR et le NPA, anti-impérialiste décoloniale, afro-féministe et noire de surcroît, qui s'exprime extrêmement bien et vient d'être élue à 36 ans députée de Paris sur une liste France Insoumise, elle vient d'être élue donc députée à 36 ans. Invitée mercredi sur le plateau des Grandes Gueules de RMC face à une demi-douzaine d'éditorialistes blancs prêts à lui faire la peau, très vite on lui demande si elle est fière d'avoir signé la pétition. Pourquoi fière? C'est bien sûr qu'elle devrait avoir honte. Obono assume d'avoir défendu la liberté d'expression des artistes. Ainsi donc, s'étonne les animateurs, elle défend le droit à niquer la France. Elle parle de liberté d'expression, ce genre de choses. On lui demande si elle dit vive la France puisque ce pays l'a éduquée. Et vous, alors là je cite, et vous aujourd'hui, d'être avec votre parcours, d'être devenu député, vous dites vive la France? Danielle Obono demande pourquoi elle devrait le dire, là, comme ça, tout de suite. Elle s'amuse et biaise, se demande si on est le 14 juillet. Parce que vous êtes né au Gabon, vous êtes aussi... C'est un espoir, l'école de la République vous a permis d'arriver où vous êtes. Raciste les grandes gueules? Pas du tout. Il ne reproche nullement à Danielle Obono...
Jamais.
Il
à
ne
la
reproche
pointe du bon goût.
Nullement à Danielle Obono d'être né au Gabon. Au contraire, ils en sont fiers. Fiers de tout ce qu'ils ont fait pour elle. Quelle est belle cette France dont l'école transforme en députés de pauvres Africains. Et comme Danielle Obono doit aimer en retour la mère patrie si généreuse et si douce. Mais Obono refuse toujours le salut au drapeau. Pire, cet ingrate esquive l'injonction des chiens de garde. Et pourtant, chacun sait que la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Quand t'as siégé à l'Assemblée, si t'es même pas capable de chanter la Marseillaise à la radio, quand des journalistes blancs te somment de le faire. Et c'est parti pour une semaine de polémiques et de petits laits pour la fachosphère, la macrosphère, la finkelsphère. Comment une marxiste noire et récalcitrante à l'Assemblée, qui ne semble plus à l'aise pour dire niquer la France que vive la France, effrayant. Dans Libération, un texte en défense de Danielle Obono affirme qu'elle a été attaquée parce que noire. C'est insuffisant. Obono, née au Gabon, a été attaquée...
Mais c'est aussi une femme, hein, elle a...
Bien sûr.
Plusieurs défauts.
Elle a été attaquée parce que l'idéologie qu'elle avance et que souligne de son origine est insoutenable pour ceux qui fabriquent cette France. Cette France que la députée refuse d'aimer pour lui préférer dans une tribune qu'elle rédige ce week-end sur le club de Mediapart, la France des luttes sociales, des mouvements féministes, des révoltes dans les quartiers en 2005, des luttes anti-impérialistes. Cette femme est décidément un danger pour la France. Pas un gros danger, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et le mainstream s'y attelle en tentant de mettre l'insoumise non conforme hors de nuire. Peut-on être très député d'une nation qu'on déteste, titrait le Figaro? Assurément non, répondait l'article. On compte pourtant bien des exemples de patriotes ayant pris les armes contre la République, des maquisards quand d'autres appelaient au salut au drapeau.
Très bien. Eh bien... On continue donc.
Avec le gouvernement d'Emmanuel Macron qui se modifie au fur et à mesure. Donc la semaine dernière, on a eu droit à la démission des piliers du MoDem, le ministre de la Justice François Bayrou, la ministre des Armées Sylvie Goulard, la ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez et Richard Ferrand, qui est ministre de la Cohésion des Territoires, ont annoncé leur démission du gouvernement qui a été remanié le 21 juin 2017, avec par exemple l'imposition à Nicolas Hulot de deux secrétaires d'État, qui sont Brune Poirson, qui était donc l'ancienne responsable de Veolia en Inde, et Sébastien Lecornu, un proche de Bruno Le Maire, donc les Républicains.
Ça va y aller dans l'écologie là, c'est bon ça.
Donc ouais. Oui, tout à fait, pour le beau projet ambitieux présenté par... la feuille de route qualifiée d'ambitieuse par les médias, remise par Nicolas Hulot le 15 juin, qui proposait l'écologie comme une orientation globale du gouvernement, comme un projet de société, une transformation de l'ensemble des secteurs économiques. On voit que ce beau projet révolutionnaire a été vite recadré par Emmanuel Macron avec l'imposition de deux personnes qui ne sont pas les fleurons de l'écologie, on peut le dire. Brune Poirson, issue de la London School of Economics, la vitrine intellectuelle du néolibéralisme, et directrice développement durable et responsabilité sociale d'une filiale de Veolia, Veolia Water India. Donc la RSE, c'est ce beau concept qui permet aux multinationales de faire du greenwashing dans divers pays du monde. D'ailleurs, Veolia Water India avait reçu le prix Pinocchio du développement durable. C'est en novembre 2013, ils avaient reçu le prix Un pour tous, tous pour moi, pour leur participation à la privatisation de l'eau dans les villes d'Inde, dont Delhi, où avait travaillé elle-même Brune Poirson. Et Sébastien Lecornu a rejoint lui l'UMP à 16 ans, assez précoce.
À la vanguarde.
À la vanguarde de la vanguarde.
De la réaction.
Pour ensuite rassembler un groupe encore plus de droite, les jeunes de droite de la région de Vernon, et devenir conseiller de Bruno Le Maire à partir de 2008. Tout ça,
c'est là.
Pardon, nous avons un petit bug.
Il y a un ordinateur qui s'est allumé tout seul et qui parle.
Pouf, c'est un complot.
Nous ne sommes pas les seuls en difficulté. Le gouvernement Macron aussi est en difficulté.
Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de démissions également pour aujourd'hui.
Et on a déjà des premiers couacs entre le ministre de l'Agriculture et Nicolas Hulot, ministre de l'Agriculture, qui, en lieu et place du beau projet de transformation écologique de la société, propose même de revenir sur ce qui a été voté par le gouvernement Hollande sur l'interdiction des... Bon, je me souviens plus du terme, mais c'est des trucs qui font mourir les abeilles.
Ouais, alors...
des pesticides.
Du coup, là, a priori, Hulot a quand même réussi à obtenir gain de cause sur la question. Philippe a fini par s'accorder en lui disant on ne reviendra pas sur cette interdiction, quoi.
Tout à fait.
Le gouvernement Macron, encore et toujours, avec son magnifique projet de contrat de projet.
Voilà, donc... Il y a donc la loi travail et il avait déjà promis un certain nombre de choses, Macron, comme la primauté de l'accord d'entreprise sur tout le reste, c'est-à-dire sur les accords de branche et sur le code du travail, dans la continuité de la loi travail de l'année dernière, hein, donc c'est-à-dire la liberté pour les patrons, eh bien, de faire à peu près ce qu'ils veulent en termes de gestion des salariés, conditions de travail, licenciement, etc. Et de faire du code du travail une coquille vide. Et là, il y a une petite nouveauté, donc c'est ce fameux contrat de projet ou comment détruire le CDI à large échelle. Alors, le contrat de projet, aussi connu sous le nom de CDI de chantier, hein, ce contrat il existe déjà dans le domaine du bâtiment. Il y a un principe simple, le salarié est engagé pour un contrat à durée indéterminée, donc un CDI, mais pour une mission bien spécifique, pour l'instant, donc un chantier. Actuellement, donc, dans le domaine du BTP, un maçon peut être engagé en CDI pour des tâches de construction, et une fois que le bâtiment est livré, il peut être tout simplement licencié. C'est donc une aubaine pour l'employeur qui n'a plus besoin de payer la prime de précarité, comme il est obligé de le faire pour les CDD, mais qui garde l'aspect à durée déterminée du contrat. Et en effet, pour chaque contrat, l'employeur est obligé de spécifier la mission spécifique pour laquelle l'employé est embauché. Évidemment, dans la grande majorité des cas, l'employeur connaît la durée de la mission. Alors, il y a l'ex-secrétaire général du groupe Renault, hein, qui avait formulé dans un rapport en 2004, hein, donc c'est Michel David de Virville, elle explique que la mesure correspond à l'une des recommandations formulées dans son rapport pour un code du travail plus efficace, c'est-à-dire inexistant, et elle préconisait de créer une nouvelle forme de contrat permettant à un salarié d'être recruté par une entreprise pour participer à la mise en œuvre d'un projet déterminé. Dans la bouche d'un des anciens cadres de Renault, on imagine bien les conséquences d'un tel type de contrat dans l'industrie. Les salariés seront embauchés pour un projet, par exemple un modèle de voiture, une pièce spécifique, et une fois que le modèle sera dépassé, l'employeur pourra tout simplement se séparer de sa main s'il veut. En d'autres termes, licencié selon son bon vouloir. Donc, pour les usines sous-traitantes de l'industrie qui fabriquent parfois une ou deux pièces, ce type de contrat signifierait une totale dépendance de toute l'usine aux commandes du fournisseur. Et si ce dernier venait à stopper les commandes, le CDI projet permettrait de licencier tout le monde du jour au lendemain.
Quand on voit comment ça se passe à GMS, dont on a déjà parlé précédemment, qui est un des sous-traitants de Renault et de PSA, et qui fabrique justement des pièces et qui ont un des gros problèmes de commandes avec Renault et PSA, et l'État refuse d'imposer aux deux entreprises de remplir le carnet de commandes, on se dit que vraiment pour les salariés de ces groupes-là, ça va être une catastrophe totale.
Voilà, c'est le permis de licencier sur le dos d'un CDI, donc c'est en quelque sorte la fin du CDI à long terme. Hein. Et ce projet, il est rêvé par le MEDEF depuis plusieurs décennies. Dès 2000, le MEDEF commence à balancer la sauce sur ses contrats de mission, ses contrats de projet, etc. Dès 2000, hein, et d'année en année, eh bien, le MEDEF finalement a réussi a imposé ses vues là-dessus grâce à donc à ce fameux Emmanuel Macron qui au-delà de défoncer le code du travail défonce les contrats, les prud'hommes et on est loin d'en finir avec ces histoires.
Parce et oui, c'est temps de canicule.
Non, dans la catégorie mépris de classe, oui, effectivement, pas ça tant de canicule, mais dans la catégorie mépris de classe, en région parisienne, les flics et les politicards en tout genre, mais aussi les journalistes tiennent un bon niveau, puisqu'on a vu, là, pour ces quelques jours de canicule, une nouvelle tradition se faire jour, c'est-à-dire d'ouvrir les bouches d'incendie pour faire des geysers.
Pour faire mumuse, quoi, c'est drôle.
Surtout se rafraîchir un peu, parce qu'en fait, en réalité, c'est souvent dans les quartiers les plus populaires que ça se passe, là où il n'y a pas tellement d'endroits de loisirs rafraîchir, mais aussi dans les endroits les plus pollués de France, je le rappelle quand même, et qui donc souffrent encore plus de la canicule. Je rappelle quelques chiffres. En 2003, lors de l'épisode caniculaire en France, qui avait fait 15 000 morts, la surmortalité, en Seine-Saint-Denis, elle a été de 60%, de 147% dans l'Essonne, de 161% dans les Hauts-de-Seine, de 160% en Seine-Saint-Denis. C'est pas ce que j'ai dit au départ, mais. Et de 171% dans le Val-de-Marne. Les victimes de la canicule, comme toujours, c'est les quartiers les plus pauvres et pour plein de raisons différentes, mais notamment parce que il n'y a pas des grandes climatisations, que l'isolation elle est beaucoup moins bonne qu'en ville.
Il y a moins de jardins.
Et par contre, là, cette pratique extrêmement dangereuse, puisqu'il y a des risques d'hydrocution, fait absolument bondir tous les journalistes. Alors, pour info, quand on cherche un peu l'actu autour de ça, aujourd'hui, par exemple, la seule info qui sort, c'est qu'un homme aurait été roué de coups en essayant de protéger une bouche d'incendie. Le traitement médiatique est extrêmement inquiétant. Il démontre vraiment un mépris de classe total des journalistes qui, par ailleurs, sont quand même habitués du fait. Et nous, ce qu'on veut dire à tous les gens qui ont chaud, c'est que c'est qu'ils s'amusent avec l'eau. Finalement, on les entend moins s'émouvoir quand des grandes entreprises partout dans le monde assèchent les rivières, les lacs et se servent tranquillement des ressources naturelles en mettant en danger réellement l'ensemble de l'humanité. Bon, on les entend moins
s'indigner, évidemment, puisque c'est leur pote.
Donc voilà, invitation à toutes celles et ceux qui aiment l'eau, faire des grandes fêtes, des grands geysers d'eau à Lyon aussi.
Allez-y dans les bouches d'incendie. Alors on continue avec la triste affaire Rémi Fraisse, qui n'en finit plus d'être étouffé. Le procureur de Toulouse a requis un non-lieu pour clore le dossier de la mort de Rémi Fraisse à Sivens, après que toutes les demandes de sa famille aient été rejetées. Alors, il rend hommage au jeune homme, mais il estime qu'aucune faute pénale ne peut être retenue contre qui que ce soit, et surtout pas le gendarme responsable de la mort de Rémi Fraisse et les autorités qui l'ont protégé. Alors, l'enterrement judiciaire de l'affaire Rémi Fraisse, qui a été tué à 21 ans à Sivens en octobre 2014, se précise. Donc, Mediapart a pris connaissance du réquisitoire, un document de 137 pages. Le procureur parle d'un jeune homme totalement intégré, calme, pondéré, pacifique. Voilà, il lui rend hommage. Qu'il s'agit d'une affaire dramatique, d'un enchaînement de faits, d'une tragédie. C'est vraiment terrible, cette mort de Rémi Fraisse. Mais par contre, personne n'est réellement responsable. Malgré les nombreux dysfonctionnements, protection des flics, du proc par le ministère, apparu donc dans la chaîne administrative et militaire dans les heures qui ont précédé la mort de Rémi Fraisse, le procureur conclut qu'aucune faute pénale ne peut être retenue contre qui que ce soit. Il n'y a, selon lui, ni violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, ni faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité.
Alors, quand le résultat, c'est que la personne meurt, je sais pas quel risque plus grand on peut faire courir aux manifestants.
Donc c'est réellement un permis de tuer qui est attribué une fois de plus, hein, mais sauf que là il y a encore une fois un mort, hein, aux policiers, aux gendarmes et à ceux qui les protègent. Hein. Petit rappel quand même de la protection judiciaire de cette enquête qui a été vraiment maltraitée par les services de l'État. Hein. Pendant 48 heures après la mort de Rémi Fraisse, les pouvoirs publics ont feint d'abord d'ignorer les circonstances de la mort. Ils ont dit qu'il s'était fait exploser un cocktail Molotov dans son sac d'abord. Ensuite, trois jours après le décès de Rémi Fraisse, deux juges d'instruction ont pris l'affaire en main, mais une fois saisi, le TGI de Toulouse s'est illustré par sa volonté de ne pas se fâcher avec la gendarmerie, la préfecture ou le gouvernement. Dès les premières heures de l'enquête, une possible direction est montrée pourtant par un lieutenant-colonel de gendarmerie qui déclare que le préfet du Tarn nous a demandé de faire preuve d'une extrême fermeté, comme le révèle Mediapart le 12 novembre 2014. Et on se rappelle qu'ils ont utilisé énormément d'armes dites non létales, mais d'une rare violence qui a quand même abouti à cette mort. Hein,
Un peu létale quand même, du coup.
Ouais, un peu létale, oui, parce que c'est la spécificité de ces armes qui tuent, c'est qu'elles sont non létales. Elles ne tuent pas, mais elles tuent quand même. Hein. Magistrat comme gendarme, je passe les détails parce que c'est un peu long, mais tout le long de l'enquête, systématiquement, la partie civile a été déboutée de ses demandes, la gendarmerie protégée, et jusqu'au plus haut degré de l'État, hein, donc probablement jusqu'à Bernard Cazeneuve, c'en est presque sûr. Hein. La justice n'a pas pu faire un vrai travail d'investigation, soit la justice, notamment le tribunal de Toulouse, la partie civile considère que ce tribunal est plutôt du côté de la police et de l'État et que il voulait la partie civile que ce soit plus le tribunal de Toulouse qui soit responsable de l'enquête, hein. Ils ont même fait une saisie pour retirer l'enquête à la juridiction toulousaine en mettant en cause son impartialité, et évidemment cette requête a été rejetée par la chambre criminelle le 16 mai de cette année, hein. Donc on arrive vraiment à la fin des recours possibles. Tout le système hiérarchique a été protégé de A à Z au plus haut sommet de l'État.
Et pour revenir rapidement sur l'utilisation des armes dites non létales, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, mais surtout depuis l'affaire Rémi Fraisse, l'État tente un glissement sémantique en appelant ça des armes à létalité réduite. C'est-à-dire que tu meurs qu'un peu.
Oui, c'est ça.
Juste pour faire un petit rappel historique, en 86, lors de la mort de Malico Sekim en manifestation, on avait eu droit aux excuses publiques du président de la République, et le ministre responsable de la loi de Vaquet qui avait provoqué les manifestations avait démissionné. On a donc aujourd'hui un traitement à la fois judiciaire et médiatique qui s'est vraiment terriblement dégradé en 20 ans.
Ouais, ces deux derniers mois, on en est quand même à deux morts, deux comas. On n'est pas sur la bonne voie quand même. Hein. Létal ou non létal, on peut mourir d'étouffement si t'as trois flics qui se posent sur toi. On peut mourir de coups de matraque alors que c'est une arme soi-disant non létale. C'est la violence qui fait mourir en fait. Hein.
Et puis depuis les manifs de fachos de keuf là, de ces derniers, il y a quelques mois, eh bien, ils ont beaucoup plus de possibilités, hein, et de liberté dans ce qu'on les appelle la légitime défense. Donc c'est un permis de tuer élargi.
Et ça sent pas bon. Voilà.
Voilà. Au niveau local, l'actualité sociale.
Oui. Alors donc il y avait. Cette manifestation d'après campagne législative, donc la date avait été posée pour le 19 juin, donc le lendemain des législatives, et c'était le mot d'ordre, c'était Front Social. Donc qu'est-ce que c'est le Front Social? C'est quelque chose qui est parti à Paris il y a quelques mois, c'est une association de sections syndicales, de militants, d'associations, d'organisations, et aussi de structures autonomes, pour en fait essayer de contrer, en prenant un petit peu d'avance, la politique qu'a menée Hollande, mais que va continuer à mener Macron avec encore plus de violence certainement. Donc, à l'origine de cette initiative, il y a eu quand même certaines sections syndicales comme Infocom CGT qui sont souvent un petit peu décriées parce qu'ils font des affiches et ils ont des positions un petit peu radicales, mais voilà, c'est forcément les plus radicaux qui se bougent les premiers dans ces cas-là. Aussi Sudpost et puis la CGT Publicis, plus plein d'autres militants tout autour de ça. Et dans la France, il y a eu, suite à l'initiative parisienne, une vingtaine de rassemblements dans des grandes villes françaises, déposée. Et à Lyon, on a déposé une manifestation, puisqu'on n'avait pas bien compris que c'était des rassemblements, mais on a eu raison, puisque c'était une manifestation super sympa. 800 personnes, ce qui est pas mal quand on voit qu'à Paris, il y a eu 1000-1500 personnes, ce qui est un drame. Mais bon, canicule, plus attentat, plus bouche de métro fermée, plus etc., etc. Ils n'ont pas eu non plus la facilité de tout ça. En plus, la manifestation a mis très très longtemps à se caler, puisqu'ils voulaient le faire devant l'Assemblée nationale et que les pouvoirs publics refusaient. Finalement, ça a eu lieu quand même. Et voilà. Mais parlons de Lyon, puisqu'on était quand même 800 et que c'était une manifestation avec une très bonne ambiance, peu de présence policière, et ça c'est quand même extrêmement agréable. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça,
par le temps qui court.
Ouais, c'est très très rare et c'est très agréable en vrai. Ça permet aussi de passer une bonne manif et d'avoir l'anxiété qui est un peu moins importante. Ça permet aussi d'avoir de bons slogans, ça permet aussi de se réapproprier aussi la rue. Et voilà, et à la fin de la manifestation, il y a eu des prises de parole, notamment des salariés de Ouibus, enfin des ex-salariés de Ouibus, des licenciés de Ouibus, qui, comme on vous en a parlé plusieurs fois, qui subissent un peu les phases expérimentales des futures politiques macroniennes. Et on a eu aussi les salariés du Vinatier et qui ont pris la parole. En tout cas, il va y avoir des choses certainement pendant l'été et surtout à la rentrée, mais déjà pas mal de sections syndicales, de groupes politiques se sont mis ensemble pour travailler, et c'est une bonne chose.
Et on est prêt à pas se laisser faire. Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, venez à l'assemblée de lutte mercredi
À
18h à l'hôtel de voilà. Ville. On le redira dans l'agenda.
À la Bourse du Travail.
C'est pour organiser la résistance.
Voilà, et on en reparlera dans l'agenda.
Encore à l'hôtel de ville, on l'a pas repris, mais ça ne saurait tarder.
Il se prend pour Bakounine, l'autre.
Ouais, pas loin.
On continue
sur l'actualité locale.
Et c'est encore toi, camarade.
C'est encore moi. Alors, on va vous parler d'un mouvement de grève qui a eu cette semaine à la clinique du Val d'Ouest. Donc, jeudi 22 juin à 8h30, il y a un piquet de grève par les dames qui font le nettoyage. Donc, c'est les agents de nettoyage du Val d'Ouest. En fait, c'est des agents de nettoyage, mais qualifiés. C'est des gens qui font de l'hygiène excusez-moi, en fait, on n'a pas.
En tout cas,
complètement exploité, diminution des effectifs divisé par deux, abus de pouvoir de la part des responsables. Certaines faisaient le week-end 7 services, alors que normalement elles sont habilitées à en faire un service par jour. Donc 7 services dans la même journée, des produits d'entretien inadaptés, elle faisait les chambres au savon alors que c'est quand même des lieux où il faut que les conditions d'hygiène soient complètement irréprochables. Et donc ces salariés syndiqués à la CNTSO ont décidé de faire une lettre au patron de SAMSIC, donc entreprise sous-traitée par la clinique du Val d'Ouest, pour lui faire part de leurs revendications. C'est ASH, puisque voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire ASH, je ne sais plus, mais ce sont devant la non-réponse du patron, se mettent en grève, et là quelques militants et militantes viennent en soutien. Et finalement, le patron, au bout de quelques heures, envoie un émissaire qui accueille les salariés, une petite délégation de 4 salariés, dans une salle de réunion. Elles ressortent dépitées, il n'a rien voulu savoir, rien. Et là, elles décident de poursuivre le mouvement. Et quelques heures plus tard, nouvelle réunion. Et là, en fait, devant la détermination, puisqu'ils pensaient peut-être qu'elles allaient arrêter, voyant qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir quoi que ce soit. Et finalement, quelques heures plus tard, elles obtiennent tout. Devant la menace de faire une grève longue, et aussi, il faut le dire, devant le fait que une manif avec des bruits de casseroles et des gens qui tractent tous les gens qui rentrent dans la clinique et qui en sortent, plus la direction de la clinique qui commence à s'inquiéter pour l'image de la clinique. C'est une clinique un peu Val d'Ouest, c'est quand même assez bourgeois comme fréquentation. Et donc devant en fait cette mauvaise publicité créée par la grève et par le tractage, finalement la deuxième manifestation, la deuxième réunion avec le personnel donne lieu à le fait que l'entreprise cède sur toutes les revendications, à savoir la requalification en AQS2 pour toutes, c'est-à-dire 35 euros par mois en plus, et CE pour les référentes, donc ça fait 150 euros par mois, passage des CDD en CDI, renforcement des effectifs de la semaine suivante et réorganisation à une personne par service, mise à disposition d'un local fermé et d'un cahier des besoins pour les produits et le matériel, mise en place de fiches de poste et de protocoles, organisation d'une réunion avec les responsables pour mettre fin à l'abus de pouvoir. Bref, la détermination est des salariés à payer, et on est très content de ça. On est très content aussi d'avoir pu un petit peu participer à ça, et il faudra qu'on participe à toutes les luttes, les prochaines luttes. Voilà.
Alors juste pour préciser, c'est aussi que donc la ASH, c'est agent de service hospitalier, et en fait c'est des postes, c'est des postes essentiels au fonctionnement d'un hôpital, hein. C'est aussi que pour ça une grève des ASH, en fait ça peut mettre un hôpital complètement en dysfonctionnement totalement.
Sauf que l'entreprise pouvait recruter des intérimaires si jamais ils étaient au courant de la grève la veille.
Ouais. Mais bon, Samsic, de toute façon, ils ont quand même plus l'habitude. C'est les mêmes qui avaient, faisaient travailler
à la part Dieu, des
femmes de ménage dans des conditions vraiment super pourries, et qui semblent quand même plutôt des habitués de ces pratiques-là, notamment parce que c'est des secteurs dans lesquels le taux de syndicalisation est assez faible, et où l'organisation collective est un peu rendue difficile par le fait que les salariés se rencontrent assez peu, quoi.
Autre mouvement social, mais sur un autre champ, contre le projet de l'A45.
Oui, donc une marche contre le projet d'A45 entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra du mardi 27 juin au mardi 4 juillet. Donc les militants vont faire les 60 km qui relient les deux villes à pied pour protester contre ce projet d'autoroute. Visualiser l'ampleur des destructions que les chantiers provoqueraient, exprimer leur solidarité avec les centaines de paysans et de paysannes dont les fermes sont menacées, célébrer la faune et la flore qui pourraient être détruites. Et il y aura un rassemblement festif à Saint-Maurice-sur-Dargoire dans le Rhône les 1er et 2 juillet. Donc, quand même, pour rappel, ce projet, c'est un projet de 845 millions d'euros qui serait donc donné à Vinci pour construire cette autoroute qui est prévue pour 2022, dont l'ouverture est prévue en 2022. Le financement est à valider par le Conseil d'État, qui a commencé à examiner le dossier la semaine dernière. Et il devra ensuite passer devant le Premier ministre qui signerait un décret de faisabilité. Et Nicolas Hulot s'était positionné contre en 2005, donc on va voir comment se maintiennent ses positions en tant que ministre actuel de l'écologie. Les militants veulent exploiter toutes les voies juridiques et politiques, mais ensuite n'excluent pas d'instaurer une zone à défendre sur la zone où passerait l'autoroute. Et quand même, ces 845 millions d'euros, ils sont à mettre en perspective avec toute la thune que se font les sociétés d'autoroute, puisque l'autorité de la concurrence expliquait en 2013 que les 7 sociétés concessionnaires d'autoroute se sont fait depuis la privatisation des autoroutes en 2016, donc entre 2006 et 2013, se sont fait 8,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Les
autoroutes, c'est très rentable, c'est un rendement de 70%, une rentabilité de 70%, une marge nette de 20%, ce qui est vraiment énorme. Donc la marge nette, c'est ce qui reste après qu'on ait tout déduit, absolument tout, les taxes, les impôts, les investissements, etc. Et un bénéfice, donc seulement en 2013, de 1,8 milliard d'euros. Ils ont ainsi pu distribuer aux actionnaires entre 2006 et 2013 14,6 milliards d'euros, tranquillou.
Ouais, détruisons les péages.
Et non, alors du coup, juste pour précision, aujourd'hui Nicolas Hulot était en visite à Lyon, Et il a dit à propos de la 45 que il y avait des choix à faire et qu'en l'occurrence le choix c'était l'engagement climatique quoi. Et on sait que Hulot de toute façon est quand même pas à l'avant-garde de la révolution, donc on se doute bien que son investiture en tant que ministre avait pas changé grand-chose sur ce plan-là.
Ouais, mais il faisait une belle émission, je trouve.
Donc bah, là la 45 est vraisemblablement pas sa priorité, donc s'il dit ça en début de mandat, c'est que il le fera jamais.
Donc on va continuer avec une petite musique, là, un petit intermède musical, c'est Mazelda et c'est Ryan Air.
Lyon 3e, dans le quartier de la Guillotière, place Badourian, vient de se tenir pendant un mois le marché du Ramadan. Malgré la chaleur et la fatigue qui accablent ceux qui jeûnent, on y trouve une ambiance conviviale et festive depuis de nombreuses années, une atmosphère d'Orient et de mixité sociale et culturelle. Nous sommes allés capter quelques-unes de ces saveurs orientales en essayant de comprendre comment tout ça a été organisé. Nous y avons rencontré des vendeurs, des acheteurs, habitués, curieux, ainsi que l'association Occupée, en trois lettres, pour Objectif Quartier Péri, qui organise cet événement. Nous avons également découvert la générosité d'une autre association de quartier, l'Olivier des Sages, qui offre trois fois par semaine le repas de la rupture du jeûne. On écoute.
Pastèque, un euro pastèque. Pastèque du Maroc, menu du Maroc.
Le tagine tunisien, salade mechouia, citronnade fraîche. Un euro, un
euro. Ça fait longtemps que vous faites le marché du Ramadan ?
5 ans. Alors ben en sucré, on vend des gâteaux. Alors des griouches, trois sortes de gâteaux, des macroutes et des cornes de gazelle. Et en salé, vous avez 6 variétés. 5-6 variétés. Plus chorba et halala. Et couscous au matin. Safa,
mousseau. Ça fait beaucoup de choses, cuisiner tout ça.
Voilà, c'est madame qui cuisine. Ouais.
C'est énorme.
C'est beaucoup de travail. Ouais. Quand est-ce qu'elle a le temps de cuisiner ?
La nuit ?
Non, du matin. À partir du 4h30, 5h et jusqu'à 15h.
Et ça coûte combien pour avoir un emplacement sur le marché ?
Eh ben, le métrage, il est à 4,50€ le mètre. Ben, il y en a qui n'ont pas des moyens de se nourrir pendant Ramadan. On essaye de mettre des prix raisonnables.
Elle est à combien la chorba ?
2,50€ la barquette.
Tiens, madame. Merci.
Merci. Vous filmez aussi ? Non, non, c'est que le son. Oh.
Parce qu'on se serait fait une beauté quand même pour pas. Ah. Des fois, on vient ici, c'est pas par manque de moyens, c'est par manque de temps. Voilà, quand on finit à 18h le travail, qu'il faut manger à 21h30, on a juste le temps de rentrer à la maison, de prendre sa douche et de dresser sa table. Donc ça nous rend bien service aussi. Je l'ai toujours fait le Ramadan depuis que j'étais en Algérie. Je suis venue ici qu'après mon mariage. Donc j'ai toujours fait le Ramadan.
C'est pas trop dur là ?
Bah si.
Il fait chaud quand même.
Il fait chaud et puis quand on boit pas et puis quand
on travaille, on est dans une société autre que la nôtre, ça il faut le dire. Il ne faut pas afficher son jeune non plus. Hein, pour dire, ah, je suis moins compétente parce que je ne bois pas. C'est pas comme Bled, c'est adapté. Et puis le ramadan, ça a un rythme particulier. Mais on est content de le faire, c'est bientôt fini.
La citronade fraîche, salade mechouia, tagine tunisien.
Alors c'est quelle association qui gère ça? C'est
l'association Objectif Quartier Péri. Ça s'appelle Occupé, c'est le nom du quartier. Voilà.
Et vous en êtes le président?
Oui, depuis 95.
Au début, c'était l'association aussi qui gérait le marché?
Non, avant, il était sauvage. Personne ne gérait le marché avant. Après, on l'a géré avec l'aide des moins jeunes et des plus jeunes.
Parce que le marché, il existe depuis combien de temps?
Déjà dans les années 70, il y avait de la vente pendant la période de Ramadan, mais c'était pas un marché. C'est juste de la vente comme ça de certains paysans de la région qui vendent leurs produits ici.
Voilà. D'accord.
Et après, avec le fil du temps, c'est un marché. Voilà. On l'organise, et on le gère et on le surveille.
Vous gérez aussi les placements?
Le nombre de forains, on gère ce qu'ils vendent, les conflits, les horaires, et voilà.
Et vous êtes en relation avec la mairie?
Alors, on travaille avec la mairie, avec le commissariat de police, avec tous ces services-là pour que tout se passe bien, pour que les choses soient faites dans les normes. Enfin, maintenant, on est obligé de travailler comme ça.
Et au niveau des financements, c'est vous aussi qui collectez les participations des forains pour
c'est
la mairie?
Le placier. Quand les participations des forains, qu'ils ont après se reverser pour les animations de quartier.
C'est pas la mairie qui prend les emplacements?
Non, parce que dans la loi française, les marchés, c'est journalier. C'est sur un jour, pas sur 30 jours. Donc là, c'est une animation de quartier, ça. On travaille avec la mairie parce que c'est une grosse animation, mais c'est pas la mairie qui organise. C'est nous qui organisons.
Allez, on finit là! Allez. Et là, il y a une autre association, c'est pas nous, hein, c'est une autre. Elle prend le relais, elle fait manger, par contre, eux, ils ont la place. Donc, ils prennent en moyenne. Hier, il y avait à peu près 240 personnes.
Mais où ça?
Là, l'Olivier des Sages, Côte des Pérus Marignan. Allez-y, vous allez trouver des gens là.
Là maintenant?
Là, oui, oui.
On peut rentrer par là.
Là, on est rue de l'Épée.
C'est la rue de l'Épée, c'est une épicerie sociale.
Donc, du coup, vous voyez, on est en plein préparatif pour le liftar de ce soir. L'association d'Olivier Dessage organise, mais depuis de nombreuses années maintenant, depuis 8 ans, des repas de solidarité dans le cadre de la rupture du jeûne du Ramadan. Là, donc, on fait le mardi, le jeudi et le vendredi. En sachant que... on fait beaucoup de barquettes parce qu'on n'a pas de place. Et on arrive à faire quoi, 3, 4, 5 services. Mais des fois, bah après, quand on n'a plus, on n'a plus. Voilà. Et bah, vous voyez les cuisinières, ce sont les dames de l'association, c'est les usagers de l'association, les bénévoles. Zaya, 81 ans, Rama, 65 ans, Madame Zani, albanaise. En fait, c'est vraiment mix. C'est-à-dire qu'on peut accueillir des musulmans comme des non-musulmans. Après, c'est vrai qu'on a été, cette année, on a été financé par des donateurs privés du quartier. Et c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ces 3 repas par semaine.
Et c'est qui ces gens?
Commerçants, c'est on va dire la téléphonie, les snacks, restaurants.
Ah oui.
Là, de la rue. Hein.
Bon, et c'est à quelle heure alors la rupture du jeûne?
Ah bah faudra venir voir. C'est 21h.
Ah ben moi je veux bien.
Hein. Oui, vous repassez, il n'y a pas de souci. C'est 21h30 aujourd'hui.
Là, il y a une place dehors.
Il y a plus de place,
non, excusez-moi. Non, non, allez, dans la salle. Il n'y a plus de place. Venez, madame. C'est Abella avec une cuisinière.
Oui. Alors, moi, je m'appelle Rama. Je suis donc usagée à l'Olivier des Sages. Je suis bénévole, donc cuisinière. Donc, elles vous ont dit, on prépare 3 repas par semaine pendant le Ramadan. Sinon, écoutez, on fait des activités pour les chibanis, les accès aux droits, tous les matins. Sinon, c'est du lien social. Voilà.
Elle m'a dit quelque chose comme 250-300 repas sont servis par
jour. Ça a commencé par un petit groupe de 50-60 personnes. Et après, l'année dernière, on a fait 150. Et cette année, 300 personnes. Vraiment, c'était... que ça, j'ai peur que, comme je vous dis, ça va crescendo. J'ai peur qu'on ne peut plus suivre, plus les pouvoir les accueillir. C'est énorme, ça devient de plus en plus... Mais malheureusement, la misère, bah, apparemment, elle va crescendo et non pas... Ouais, voilà. Parce que je suppose que s'ils avaient un toit, s'ils avaient de quoi manger, les gens ne viendraient pas. Mais bon.
La fin du jeûne a été annoncée samedi soir par la mosquée de Paris. C'est hier soir que l'Aïd el-Kébir a été célébrée. Les incertitudes sur la date de début et de fin du ramadan nous interrogent toujours. En effet, le calendrier islamique est lunaire, tandis que notre calendrier chrétien est fondé sur la révolution de la terre autour du soleil. Chaque année, le mois de ramadan est donc décalé et commence